Jusqu'au 28 janvier, embarquez pour l'élégance à prix de rêve avec le rendez-vous Air France.
Taxi.
Avec Air France, c'est le moment de prendre rendez-vous avec le monde, par exemple New York, à partir de 449 € au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France.
Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 9 au 22 mars 2026 et du 7 septembre au 11 octobre 2026.
Un peu peut-être comme
Vous voyez, on a ce point commun, on a fait une force.
Il faut tenter. On a de la, c'est une chance, c'est pas toujours possible, hein, c'est une chance.
Est-ce qu'on a le choix, Roland ?
Je crois pas qu'on réfléchisse en termes de choix. Ça se présente pas toujours en termes de choix. Moi, je pense que c'est toujours une petite chance quand on a cette appétence, cette envie, et puis on est parfois bien entouré. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille extraordinaire. Je sais pas ce qu'il en était, même si votre famille n'a pas trop cru à ce que vous aviez à l'époque. Je pense qu'après, ils vous ont accompagné le mieux possible.
J'ai des frères et sœurs, et justement,
ils vous ont accompagné.
Je profite justement de ce moment-là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère Daniel, pour lui souhaiter un bon anniversaire. Je profite de ce moment
Bon anniversaire. Alors, ouais. À votre frère. Alors, Bernadette, vous savez, Bernadette, qui est une de nos auditrices fidèles, nous dit Yves Pellet à plusieurs sites. Elle a déjà été voir.
Oula, c'est gentil. Alors, attention, différents sites. J'ai un site qui s'appelle yvespellet.com.
C'est celui-là, yvespellet.com.
Voilà, j'ai donné les coordonnées aussi à Julia.
Oui, Julia qui vous a...
Voilà, ça s'appelle aussi, j'ai appelé ça aussi Entre deux mondes.
Ah, Entre deux mondes, voilà, si Bernadette les trouve, c'est yvespellet.com, Pellet, P-E-2-L-E-T. Et entre deux mondes. D'accord, écoutez, on a fait le tour. Yves, merci, j'étais vraiment très content d'ouvrir cette émission avec vous, avec cette énergie, avec ce qui a mal commencé, mais qui a extraordinairement bien continué. Et c'est pas fini, bien sûr que non, c'est pas fini. Vous allez devenir animateur, donc non, c'est pas fini, ça ne fait que commencer.
Si le bigleux peut aider le boiteux, ça sera avec grand plaisir.
Merci, c'est super gentil. C'est super gentil. Merci beaucoup Yves, on vous embrasse. Au revoir.
Je vous embrasse aussi, très bonne soirée.
Merci, au revoir.
Retour de la Libre Antenne ce soir et ce sera en direct, toujours de 22h30 à 1h. Alors n'hésitez pas à nous laisser un petit message avec vos coordonnées pour que l'équipe puisse vous rappeler. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Dans un instant, balade en France avec William Lémergy. Et ce samedi, il nous a emmenés au musée de l'eau à Pont-en-Royans, en Isère, mais aussi à la ganterie Agnel, en Haute-Vienne. Et on a aussi visité un château à Saint-Antonin-Nobleval, dans le Tarn-et-Garonne. Mais avant de reprendre la route même, on écoute Alain Vedé qui chante l'amour de l'euphorie des premiers instants au vertige de l'au revoir. Voici Sayonara sur Europa.
J'ai beau retourner le passé, dans tous les sens, je dors même plus quand j'y pense. Mes potes veulent que je retourne danser, mais j'ai tendance à oublier la Corée. Je sais plus si c'est à gauche ou à droite, j'ai pas la tête à aller en boîte. Si je viens, ça risque mal finir, elles ne sont pas toi, on se dit. C'est je t'aime pour toi, ça voulait dire quoi? Je suis sans dessus dessous.
Je craque, j'ai besoin qu'on vienne et qu'on me
risque mal finir. Elle ne te ressemble pas, on se dit c'est je t'aime pour toi, ça voulait dire quoi? Je suis sans dessus dessous.
Sayonara ou l'amour dans tous ses états, c'était Ala Vd sur Europe 1, un artiste franco-belge qui a sorti au printemps dernier un mini-album, un EP comme on dit, intitulé Sayonara pour dire au revoir à son début de carrière qui a commencé dans les grosses maisons de disques avant de créer son propre label. Bonne nuit avec nous sur Europe 1 et bonne route puisque c'est l'heure de notre émission Patrimoine hebdomadaire que vous pouvez donc redécouvrir en nouvelle diffusion, Balade en France.
Europe 1,
17h-18h,
Balade en France, William Lémergie.
Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans Balade en France. Nous allons, comme chaque samedi sur Europe 1, vous présenter quelques sites qui méritent de vous déplacer pour les visiter. Nous avons puisé tout cela dans le guide du Routard. Nombreuses informations, des adresses exceptionnelles, et vous verrez que vous ne regretterez pas le voyage. Nous ferons ça avec Gavis Clémenté-Ruiz, le directeur du développement de ce même guide, figurez-vous. Bonjour Gavis.
Bonjour William, bonjour à tous.
On va commencer par un musée dont on ignore souvent qu'il existe même, Gavis.
Ouais, et c'est le musée de l'eau.
Eh oui.
Eh ouais, ça existe. Et pour ça, vous allez vous rendre dans le Vercors, où tout commence par l'eau, celle qui a creusé le décor, qui a façonné les moulins et qui a donné naissance à ce village. Un musée pour un liquide essentiel. Essentiel, hein. Vous en avez peut-être bu pas mal aujourd'hui. Hein. Combien de litres il faut lire? Bref, je sais plus.
Il faut un litre et demi par jour.
Bon, bah voilà. Et bah, un petit peu plus encore, grâce à nous. Et il y a une histoire derrière ce lieu et on va vous raconter tout ça.
Tout de suite après, on vous proposera de visiter une maison à la fois discrète, mais tout de même célèbre. Et dans le monde entier.
Ah ouais, là on va en Haute-Vienne, dans une maison qui fabrique quoi? Qui fabrique des gants. Ça se passe à Saint-Junien, c'est la capitale historique de la ganterie française. J'aime bien ce mot. Et vous allez découvrir la maison Agnel, qui travaille pour les plus grandes maisons de couture françaises et internationales. Et les ateliers se visitent, bien sûr.
Et ensuite, vous aurez droit à la balade sémantique, comme chaque semaine, avec une expression aujourd'hui encore très employée. Sarah Doraghi vous dit de quoi il s'agit. Bonjour Sarah.
Bonjour à tous, bonjour William. Cette expression peut s'employer dans les deux sens. Soit on vous dit que vous êtes en odeur de sainteté, soit vous ne l'êtes pas. Mmh. Alors évidemment, c'est une expression qui remonte aux anciennes traditions chrétiennes. Et dans ce cas précis, il faut remonter au Moyen-Âge. Pourquoi utilise-t-on le mot « odeur » pour parler de sainteté? Vous allez voir, sentir même, c'est très précis.
Ensuite, la balade du patrimoine. Et pour sa direction, le cœur des gorges de l'Aveyron, Gavin.
Eh oui, vous allez découvrir à 1h30 de Toulouse le château de Casse. C'est une ancienne place fortifiée, occupée, et il y a très longtemps par des Templiers, notamment, surtout. Et aujourd'hui, dans ce château, bah, vous allez pouvoir découvrir comment on vivait au Moyen-Âge, parce que ce n'est pas un château-musée classique.
Et plus tard, nous vous emmènerons à Nice pour une balade culturelle, mais... c'est pas tellement notre culture dont il sera question dans ce musée des arts asiatiques, mais de sumo, Sarah.
Oui, vous allez tout apprendre sur cet art martial que l'on considère au Japon un peu comme une sorte de religion, un art sur lequel on ne sait pas tout, à part qu'il s'agit de combats entre messieurs plutôt charnus, plutôt volumineux, mais extrêmement souples. Alors dans ce musée, vous saurez tout sur l'origine et sur les raisons pour lesquelles le sumo va traverser les siècles.
Tout cela, c'était un sommaire, figurez-vous. Voici les balades. Elles commencent maintenant.
Balade en France, 17h-18h,
William Lémergie sur Europe 1.
Première étape, la Drôme dans le Vercors, dans un village accroché à la falaise qui est devenu célèbre pour ses maisons suspendues au-dessus d'une rivière. Quand je dis au-dessus, c'est franchement, quand on voit la photo, elles sont à plusieurs dizaines de mètres au minimum, hein, au-dessus de la rivière. C'est spectaculaire.
J'ai limite le vertige moi, quand je la regarde. On est à Pont-en-Royans, William, c'est à 2 heures de Lyon à peu près. Vous allez découvrir là un musée vraiment, vraiment pas comme les autres.
C'est le musée de l'eau. C'est l'eau qui a tout fait ici, hein. Enfin, si j'ose dire. Elle a façonné le paysage, d'accord. Elle a fait à l'époque tourner les moulins. Et aujourd'hui, elle inspire un musée tout entier.
Et il n'y en a pas beaucoup des comme ça, hein. Et celui-là, il est scientifique, il est pédagogique, il est poétique aussi, quelque part. Il est situé dans une ancienne usine qui est au bord de la Bourne. C'est ça, la rivière en bas. Et c'est donc un musée qui parle d'un élément vital, hein, qui est, comme on le sait, devenu assez fragile.
Alors, pour en savoir un peu plus, nous sommes en ligne avec Souhaila Emadi. Bonjour Souhaila, vous êtes directrice du musée de l'eau. Bonjour Madame la directrice.
Oui, bonjour à vous et merci de nous accueillir sur votre émission, c'est un plaisir.
Alors, où sommes-nous exactement? Nous sommes à l'entrée du village avec votre musée et dans quel genre de bâtiment?
Alors, vous êtes à Pont-en-Royans, on est bien au cœur du village, à l'entrée même du village. On longe la rivière de la Bourne, on est dans un cadre fort sympathique entre rivière et montagne. Mmh. Et dans quel bâtiment on est? En fait, les murs racontent une véritable histoire. On est dans un ancien bâtiment de la Compagnie Générale d'Électricité.
Ah bon?
Donc, c'est un magnifique bâtiment, une architecture qui a été reprise avec goût et originalité pour mettre en scène l'eau sous toutes ses formes, apporter des éléments de compréhension et de sensibilisation à l'eau.
Avant de voir ce que contient le musée, il faudrait peut-être expliquer que toute l'activité du village a tourné ou tourne encore autour de l'eau. Mais pourquoi est-ce qu'on en a construit ces maisons si haut?
Tout simplement pour des contraintes, j'ai envie de dire, d'espace, hein, qui étaient très limitées. Donc en fait, vous avez des jolies maisons étroites, en hauteur, et qui sont, comme vous le disiez en introduction, au-dessus de la Bourne. Donc il fallait les mettre en hauteur pour éviter les risques d'inondation.
Ah oui.
Et on aime bien, si c'est plus parlant pour tout le monde, les comparer aux cinq terres en Italie. Donc
c'est
vous
vrai.
Avez des maisons colorées qui sont à même la roche. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment atypique. C'est très joli et elles sont vraiment, comme leur nom l'indique, suspendues au-dessus de la rivière.
Oui, c'est ça. Parce
très
que j'en vois une...
ça a beaucoup de cachets.
J'en vois une là qui est toute rose. Sa voisine est un peu jaune. Celle d'à côté est beige clair.
Elles ont combien d'étages, ces maisons? Elles sont très hautes,
je ne sais pas, là, parce que... Est-ce que... Oui, en haut, ça doit donner sur un espace plutôt plat. Et puis, quand on descend, évidemment, ça fait quoi? 5, 6, 7 étages, presque.
Alors, oui, elles sont assez étroites et assez,
assez hautes. Hein,
on vit des maisons avec, des fois, la cuisine est en haut, le salon en bas.
Oui.
C'est atypique.
C'est pas pratique, ça, hein, d'aller chercher le beurre à 6 étages au-dessus, c'est sûr.
Wow.
Sarah, allons-y.
Oui, alors, à part garder l'homme, la nature, les animaux en vie, à quoi servait l'eau à l'époque? Elle alimentait les moulins, mais pas seulement?
Non, pas seulement. En fait, au Moyen-Âge, c'était le transport du bois par flottaison sur la rivière.
Ah oui.
Il y a aussi eu beaucoup... Enfin, l'eau, c'est aussi avant tout le canal d'irrigation de la Bourne. C'est un chef-d'œuvre qui emporte l'eau sur plus d'une dizaine de kilomètres et qui permet d'irriguer la plaine fruitière et maraîchère de la Drôme. C'est aussi les activités au niveau du Royan qui sont liées à l'activité de la soie à l'époque.
Et c'est un moyen de transport, quoi, aussi.
Et c'est un moyen fluvial de transport et de pêche.
Le musée, il est assez récent, Souhaila, c'est ça, hein? Et c'était quoi l'objectif en le créant, en fait?
Non, en fait, je ne sais pas s'il est récent ou pas. En tout cas, il a été inauguré en 2002. Ça fait quand même un musée qui a plus de 20 ans, qui était visionnaire, hein, dont la vocation était d'expliquer la place de l'eau, et notamment dans le Vercors, où l'eau circule sous terre, ressort sous toutes ses formes et se dans différentes sources. Elle a façonné les paysages. Elle a conditionné toute la vie humaine et économique. Et le musée, en fait, il avait vraiment pour objectif de comprendre d'où vient l'eau, comment elle circule et pourquoi elle est si précieuse et fragile.
Alors, maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on voit quand on entre dans le musée?
De l'eau.
Il y a un parcours en plusieurs espaces, paraît-il. Lesquels?
Alors déjà, on arrive dans une jolie grande bulle. Le visiteur est une goutte d'eau qui pénètre comme ça dans un tunnel et qui déambule à travers le musée. C'est sous différents angles. Hein. On va aborder la molécule précieuse H2O, sa composition. Mais on va aussi avoir la de l'eau, à travers l'évaporation de l'eau, les nuages, les précipitations, les aléas climatiques. Vous avez des films qui portent documentaires sur les femmes et l'eau au niveau international, puisque les femmes transportaient et passaient beaucoup de temps à transporter l'eau d'un pays à l'autre.
Dans certains, dans certains pays, elles portaient ça sur leur tête.
Et, ben, ça, tout à fait.
Et ça tenait.
Mais ça tenait, elles y arrivaient, chose qu'on ne saurait plus faire, puisqu'on ouvre le robinet et que tout est accessible.
Et oui.
Mais voilà, mais en fait, il y avait une vraie, il y a une vraie vie, en fait, des femmes sur l'eau, et il y a un documentaire et des photos.
D'accord.
Et il y a des photos également de Rémy Masson, qui sont les eaux souterraines. Et là, on ferait une belle erreur de ne pas citer les grottes, puisqu'on a les grottes de Chauranche à peine 10
km. Ah,
on visite le musée de l'eau. Souvent, dans la même journée, on a le temps d'aller visiter les grottes et vice-versa.
D'accord.
Et puis, on a les photos de Simon d'Estombes également. Donc, c'est un regard plutôt d'un guide haute montagne et c'est les eaux du monde. On découvre
c'est incroyable.
À travers des quiz.
C'est fou ce qu'on peut dire. C'est fou ce qu'on peut dire sur l'eau. C'est incroyable.
Oui,
il y a tellement de chapitres à développer.
Un musée de l'eau, c'est génial.
Sarah ?
Oui, je voulais. Chez nous, ça arrive parfois. Est-ce que chez vous aussi, de temps en temps, il y a de l'eau dans le gaz ? Je pose la question.
Non,
évidemment, c'était pas ma vraie question. Non, c'était pas ma vraie question. Moi, je voulais savoir. Tous ces espaces, évidemment, on se contente pas de les regarder. C'est très interactif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière ?
Oui, alors c'est très très vivant, puisqu'en fait vous avez des quiz géants que vous allez pouvoir découvrir en famille ou entre amis. C'est l'occasion de découvrir, de se challenger à travers des questions, des jeux grandeur nature. Et du coup, oui, c'est vraiment à travers des films, des photos, des documentaires. Donc on participe, on touche, on découvre, on lit, mais c'est assez vivant.
D'accord. Alors c'est un site qui est insolite aussi, parce que évidemment c'était la moindre des choses, il y a un bar à eau. Autrement dit, il y a des eaux qui ont des goûts très différents. Alors là, bien sûr, eau plate, eau gazeuse, ça on connaît,
oui,
ça
parce
va.
Parce que la question bête serait qu'est-ce que je vous sers ?
Non, c'est de la flotte, c'est de l'eau. Mais à part ça, en quoi les eaux peuvent être aussi différentes les unes des autres ? Elles sont plus ou moins quoi ?
Eh ben, en fait, l'eau, elle est... alors déjà, quand on parle d'eau gazeuse, eau plate, c'est la grande différence qu'on fait, mais est-ce qu'elle est gazeuse naturellement ?
Ah oui, oui. Ah oui, vous avez raison.
Voilà, donc déjà, c'est une première notion. Et l'eau, c'est quoi la différence entre une eau de source, une eau minérale ?
Oui.
Donc on va accompagner à cette connaissance à travers un bar à eau, une dégustation d'eau. Et c'est vrai qu'on a l'originalité d'avoir un bar à eau qui est magnifique, avec un design qui est à la fois contemporain et chaleureux. Et on découvre les eaux, leur goût, leur composition. Il y en a qui sont plutôt terreuses parce qu'elles sont sur un terrain peut-être souterrain. Il y a des eaux qui sont pas tout à fait naturelles. Et donc, on va expliquer en quoi le gaz a été rajouté.
Oui, le gaz carbonique. Coup, on rajoute de l'eau. Oui.
Voilà.
Bon, alors, Sarah.
Oui, il y a des œnologues pour le vin et puis il y a des œnologues. Que font-ils ?
Alors en fait, c'est bien plus que de raconter l'histoire de l'eau. Hein. Ce n'est pas qu'un récit, c'est une expérience. Donc en fait, il y a des spécialistes du goût, des arômes, des sensations en bouche. C'est une découverte sensorielle où, en effet, on va vous indiquer, mais clairement, qu'une eau gazeuse, elle peut avoir des bulles très fines.
Oui.
Des bulles qui sont beaucoup plus rondes.
C'est plus cher.
Il va y avoir... C'est plus cher, ouais, c'est souvent en grande restauration, on les met sur les grandes tables. À l'époque, on vantait les mérites de la Châteldon, qui était l'eau du Bordelais.
Absolument.
Aujourd'hui, on a la Saint-Géron, qui est une eau auvergnate et qui est très fine en bouche et qui est très agréable pour les grandes tables.
Dites-moi, est-ce que comme les œnologues, c'est-à-dire que quelqu'un, l'œnologue peut nous expliquer, il y a des notes de cassis, c'est boisé, c'est fruité, c'est citronné.
Peut-être, oui, peut-être.
Voilà, ce sera moins fruité qu'un vin, c'est bien sûr. Évidemment, mais oui, on va aller également sur des accords.
C'est que je me dis que.
Il y a des accords,
Ben oui, mais je me dis que chez Vichy ou Châteldon, il y a un gars, c'est son boulot, il est là à l'année, il est œnologue et il teste, il dit non, attention, là, elle est un peu trop acide ou pas assez, celle-ci est un peu sucrée, vous n'arrivez pas là.
C'est super pour le dry January en tout cas, on est vraiment en plein dans la période. Et dans ce musée, vous parlez aussi d'énergie, je crois, parce que
justement,
l'eau, ça sert aussi à fabriquer de l'électricité dans le Vercors et ailleurs, pas que dans le Vercors.
En fait, on a beaucoup parlé d'énergie, en effet, hein, on a parlé de l'eau, l'énergie, c'était c'est étroitement lié, hein, de toute façon. Ouais. Le musée a abordé cette thématique à travers le partenariat avec EDF qui existait auparavant dans une salle qui était vraiment dédiée. Donc c'est clairement une thématique qu'aujourd'hui nous souhaitons retravailler et développer à nouveau, parce qu'il faut comprendre que l'eau, son rôle est aussi dans la production énergétique, dans les enjeux de transition énergétique. Et en fait, on souhaiterait vraiment renouer, alors c'est aussi un message qu'on passe à EDF, une démarche qu'on fait. Hein.
Allez-y, nous écoute.
On souhaiterait vraiment renouer des partenariats avec les acteurs de l'énergie pour enrichir cette lecture au niveau du musée et bien mettre au cœur de la sensibilisation et de la compréhension. D'accord. Le lien entre eau et électricité.
Alors, allez voir ce musée, parce que là, je vois sur la photo, je ne sais pas où se situe ce mur, mais il est peut-être à l'entrée, c'est le mur des bouteilles. Mur des bouteilles d'eau.
Vous en avez combien ?
C'est magnifique, là, il y en a, moi je dirais quelques centaines, non ?
Oui, alors déjà, c'est en fait, vous êtes au cœur. La photo que vous voyez et que j'imagine bien, c'est celle du bar à eau.
Oui.
Vous avez une exposition d'énormément de bouteilles d'eau.
C'est ça.
Elles sont en exposition. Mmh. Il y en a qui sont à la dégustation et à la vente, puisqu'il y a une boutique.
D'accord.
Et c'est là, justement, dans cette pièce, essentiellement, qu'on fait la dégustation d'eau et qu'on vous accompagne à découvrir les différentes eaux.
Bon.
On sensibilise le visiteur à l'eau en bouteille en verre plutôt qu'en plastique.
Et on
accompagne aussi au travers d'expositions temporaires et notamment l'exposition actuelle qui porte sur France Cartoon des dessins de presse sur le climat, l'environnement et justement la préservation de l'eau et la préservation de la nature.
Voilà, puis il y a aussi des expositions temporaires qui vous permettront de comprendre une chose qui est toute simple mais fondamentale, c'est que l'eau, c'est à la fois une histoire, vous l'avez dit, c'est un goût, même plusieurs goûts comme on l'a compris, c'est une ressource, puis alors c'est aussi dans certains pays devenu un enjeu, et vous verrez sur place pourquoi. Merci beaucoup Sola et Madi, ce musée est utile, et puis il est dans un lieu comme il n'y en a pas deux en France. Voilà, ça se passe à Pont-en-Royans, on est à 2 heures de Lyon à peu près, au musée de l'eau. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, au revoir.
Merci Sola.
Merci à vous.
Au revoir.
Pour aller au musée de l'eau, William, vous savez comment on fait ? On va déjà voir sur le site internet qu'on mettra sur europe1.fr. C'est ouvert une grande partie de l'année, souvent l'après-midi en hiver avec des horaires élargis en été bien sûr. Ça coûte 7 euros, c'est gratuit pour les petits et tout est sur europe1.fr.
Un endroit pour se reposer, dormir, la sieste ou autre.
C'est tout trouvé, il y a l'hôtel du musée de l'eau.
Ah bon.
Eh ouais, c'est juste à côté, sur la place du Breuil. Chambre autour de 82-93 euros, ça va, c'est correct. Et l'entrée du musée est incluse.
Et on peut se restaurer dans la région, oui.
Aussi. Eh ben, vous savez où ? Au musée de l'eau.
Ah bon, il y a
un resto sur place.
Il y a un bar, le musée, le restaurant et l'hôtel.
Et un hôtel, il y a tout. Avec une grande terrasse panoramique, c'est super. Et qu'est-ce que c'est beau, Pont-en-Royans, c'est très joli.
17h-18h. Balade en France. William Lémergie.
Pour la balade en France du savoir-faire, on sait. Direction Saint-Julien. Alors Saint-Julien, c'est à 30 km environ de Limoges. On va s'y arrêter car d'abord c'est un objet de saison dont nous allons parler. Et parce que la maison, dont nous allons parler également, vous propose de visiter ses ateliers. Alors c'est une maison prestigieuse, mais discrète. Alors pourquoi ? Vous allez voir, il s'agit de la Ganterie Agnelle Gavins.
Ah ouais, j'aime bien ce mot, ganterie. C'est une maison qui a été fondée en 1937, au siècle dernier, ici même à Saint-Junien, qui est la capitale historique de la ganterie française.
Et oui. Ceci explique un peu cela.
C'est exactement pour ça. Si le mot tradition a un sens, c'est ici qu'il a été développé autour de la mégisserie. Là aussi, un autre mot que j'aime beaucoup. Mégisserie, comme vous le savez, c'est la transformation des peaux animales en cuir, et dans ce cas précis, la fabrication de gants de grande qualité.
Alors, pour en savoir plus sur ce lieu où l'on fabrique l'exception, nous sommes en ligne avec Sophie Grégoire, qui est la quatrième génération à la tête de la maison Agnelle. Bonjour, madame la successeur de la famille Agnelle. Bonjour Sophie.
Bonjour. Alors, la troisième femme à la tête de l'entreprise.
Ah, c'est bien ça.
Tout d'abord, c'était mon arrière-grand-père, et puis après, c'est passé par les femmes.
D'accord. Un peu d'histoire sur la ganterie quand même. En 1999, votre maman vend la maison Agnelle à un groupe américain. Et puis en 2001, c'est vous qui rachetez la ganterie. C'est bien ça.
Alors, donc en 99, maman a vendu à un grand groupe américain, le groupe Royal Salmon. Et au bout d'un an et demi, ils ont décidé de revendre l'entreprise. Et les Twin Towers sont tombés, c'était le chaos dans le monde entier, et donc ils m'ont dit, bah, écoutez, voilà, on va fermer l'entreprise. Il était impossible pour moi d'accepter cette réalité, et donc j'ai repris l'entreprise avec un ami qui était musicien à Limoges.
D'accord. Alors, une question qui va vous paraître un petit peu bébête, mais le gant, là, pas celui que l'on fabrique aujourd'hui, mais le gant, ça existe depuis quand? Et dans l'histoire des vêtements, il faut remonter à combien de siècles en arrière pour découvrir le premier gant? On le sait, ça? Le
Alors, bébé. Moi, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des très anciennes images de l'homme préhistorique qui se protégeait les mains. Les mains ont toujours été protégées dès que l'outil est arrivé, du froid, du travail. Enfin, la main étant ce qui nous permet de vivre, de chasser, de construire.
Chasseur-cueilleur et même dessinateur sur les murs des grottes.
Oui, tout à fait.
Et on voyait ça avec des balles, peut-être pas gantées, mais il y avait peut-être des peaux, une peau d'animal sur la main, oui.
Alors certainement, oui, plus des moufles, qui pourraient ressembler à des moufles aujourd'hui.
Alors, dites-moi, pour fabriquer un gant, alors maintenant revenons un peu plus tard, avec des peaux animales et transformer le tout en cuir, on a toujours eu besoin d'eau, non?
Oui, raison pour laquelle il y avait beaucoup de mégisseries et de tanneries dans notre région, puisque l'eau était de très bonne qualité et abondante. Et donc, les industries de la chaussure aussi à Limoges, se sont installées, donc Saint-Junien et Limoges.
Alors, Sarah?
Alors, je lis que dans le plus vieux gant en cuir tressé aurait été retrouvé dans la tombe de Toutankhamon. Je vous donne cette petite information. Et on passe à ma question. Alors, je voulais savoir, à partir de quand, moi je me rappelle cette phrase sublime d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, « Je n'ai pas de gants, la belle affaire, il m'en restait un d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort important, je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. » Bam! J'adore. D'accord. À partir de quand il y a eu toute une partie de la population qui utilisait les épées, c'est pour ça que je pense à ça, des poignards, des haches, et qui ont commencé à utiliser une ou plusieurs paires de gants. Autrement dit, c'est devenu un vêtement qui était nécessaire pour se protéger.
Oui, entre autres, oui. C'est ça, Sophie?
Oui, certainement. Je ne suis pas historienne.
Mais si, il faut le devenir, Sophie, parce que nous, on dit, Sophie, elle sait tout de la maison Agnel.
De la maison Agnel, oui.
Bah alors, justement, dans la maison Agnel, la fabrication d'une paire de gants, ça se fait en combien d'étapes?
Alors, il y a trois métiers principaux. Donc, le coupeur, la couturière et la personne qui va habiller le gant de sa doublure. Les trois techniques n'ont pas changé depuis la nuit des temps. On coupe toujours les gants sur des vieilles tables en bois, on étire les peaux. Les coupeurs fabriquent entre 20 et 22 paires par jour. Toutes les pièces sont travaillées dans un sens et les défauts placés. Et puis, donc, c'est fendu. On a une vieille machine qui fend et qui a un très joli bruit. Mes coupeurs la règlent selon le bruit qu'elle fait quand elle coupe. Et ça, c'est magnifique à regarder.
Sarah.
Oui, parce qu'aujourd'hui, vous approvisionnez les plus grandes maisons de couture françaises et internationales, mais je suppose que vous avez plusieurs gammes de prix, non? Même si la qualité est toujours exceptionnelle, hein, toujours la même. Est-ce que vous avez toujours autant de clients, par exemple, à l'étranger?
Oui, tout à fait. Alors, pour une petite entreprise comme nous, basée à Saint-Junien, nous exportons plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. Et une autre partie, c'est de la sous-traitance pour les grandes maisons. Alors, on a une grande proximité avec la maison Christian Dior depuis plus de 70 ans. Nous travaillons avec cette belle maison. Et puis, beaucoup de marques comme Louis Vuitton, Loewe, Balenciaga.
Oui. Oui, mais est-ce que vous avez des gants qui sont à votre nom?
Bien sûr.
Ah, oui.
Oui, on a plus de la moitié de notre production porte notre nom et est diffusée dans les plus gros grands magasins du monde.
Il y a des noms, il y a des stars qui portent vos gants. J'ai vu qu'il y avait Madonna qui avait porté vos gants au Super Bowl. Il y a Beyoncé, il y a Lady Gaga, il y a même la First Lady actuelle, Madame Trump, qui porte, pour la première investiture, qui portait des gants Agnel. Comment ils font? Ils disent « je veux des gants Agnel ».
Alors, nous fabriquons pour des grandes marques qui habillent ces grandes stars.
Ouais, c'est
donc
ça.
En fait, on les fait vraiment sur mesure, mais c'est avec à travers des grandes marques de luxe.
Merci beaucoup. En tout cas, voilà, c'était la maison Agnel, qui est labellisée, bien sûr. Elle est entreprise du patrimoine vivant, ce qui est accordé à des entreprises qui ont un savoir-faire d'excellence. Et ça vous concerne. C'est le résultat, vous l'avez compris, d'un travail qui se transmet depuis, alors, ça fait à peu près 90 ans, voilà. C'est à Saint-Julien, en Haute-Vienne, un des exemples de notre savoir-faire français qui a conquis, vous l'avez compris, ah, le oui. monde et qui continue de le faire. Merci à vous, Sophie Grégoire. Je vous souhaite une excellente journée.
Merci Sophie. Merci.
Au revoir.
Merci.
Gavis, d'autres informations
bien, si
pratiques.
Si vous voulez aller visiter la ganterie Agnel, il faut aller, si vous voulez déjà commencer à aller voir le site internet agnel.com qui est magnifique. Vous allez voir plein de choses et ils expliquent plein de choses sur leur savoir-faire. Et comme toujours, on met toutes les informations sur europe1.fr.
Et on prolonge la balade avec une adresse soit dans la ville, dans la région.
Ouais, j'ai trouvé une adresse. Encore une fois, c'est super. Ça s'appelle la table du gantier.
Oui,
on
bien
est
sûr.
À Saint-Junien. C'était.
Non, c'était la capitale de la ganterie.
Là, c'est la capitale où vous allez pouvoir manger. C'est convivial, c'est généreux. Cuisine de produits frais, la table du gantier, une ambiance chaleureuse. C'est une bonne manière de conclure, non, cette petite immersion dans le savoir-faire local.
Europe 1,
17h-18h,
balade en France. William Lémergie.
Pour la balade du patrimoine, dans un instant, nous vous proposons de vous rendre dans les gorges de l'Aveyron pour découvrir un magnifique château perché sur un éperon rocher. Le château est chargé d'histoire, puisqu'il a entre autres abrité des Templiers au XIIIe, XIVe siècle. Mais tout de suite avec Sarah Doraghi, la balade sémantique. Et pour cette balade, on vous propose de mieux connaître l'origine de l'expression « être en odeur de sainteté ». Vous savez ce que ça veut dire, mais d'où ça vient? C'est vrai, c'est une expression aussi qui peut s'employer dans les deux sens, c'est-à-dire soit on est en odeur de sainteté, soit on ne l'est pas. Vous nous rappelez si besoin, ça, ce que ça veut dire exactement, et surtout, d'où ça vient cette formule?
Alors, bien sûr, avec plaisir, William. Aujourd'hui, l'expression, comme vous le savez, signifie que l'on est très très bien vu, très apprécié, en général par ses supérieurs hiérarchiques, suivez mon regard, ou par une autorité quelconque, ou au contraire, que l'on n'a pas une bonne réputation et que l'on n'est pas apprécié de telle ou telle personne. Mais à l'époque, ça n'était pas ça du tout.
Ah oui, parce que être en odeur de sainteté, on s'en doute un peu, quand on découvre cette expression, ça a des racines religieuses,
exactement,
chrétiennes, qui ressemblent à la tradition chrétienne du Moyen-Âge, et qui, et ces racines font référence à... Alors, c'est à une croyance qui est extrêmement précise, Sarah.
Oui, c'est une croyance selon laquelle le corps, écoutez bien, le corps de certains saints et même leurs reliques dégageaient après leur mort une odeur agréable. Ah oui, agréable et suave, figurez-vous. Très différente de l'odeur de décomposition habituelle, hein, bien sûr.
Oui.
Une sorte de parfum, si vous voulez. Et cette senteur était interprétée comme une marque miraculeuse de sainteté. Alors, on allait même jusqu'à dire que des personnalités, avant d'être considérées par l'Église comme des saints, avaient de leur vivant déjà une odeur très agréable. Ce n'était pas les parfums de grands parfumeurs, non, naturellement, un parfum très agréable qu'on appelait odeur à l'époque.
Mais est-ce qu'il y a des textes qui prouvent ça ou ce sont des rumeurs, ça s'est raconté ou des témoignages,
prouve,
je ne sais pas.
Qui le prouvent, je ne sais pas, mais il y a des textes, il y a des récits du Moyen-Âge qui rapportent qu'effectivement, chez certains saints, après leur mort, on sentait un parfum délicat, figurez-vous, autour de leurs reliques. Et cela signifiait que l'âme du défunt, l'âme du défunt, autrement dit le saint, était pure. Donc ça, c'était une garantie, si vous voulez. Cette odeur, c'est un peu l'odeur de la myrrhe, odeur que transportaient les rois mages également.
Entre autres. La myrrhe, l'encens, etc. Donc à l'époque du Moyen-Âge, l'expression signifiait littéralement que les saints sentaient bon après leur mort, oui.
Oui, c'est ça. Oui, ça voulait dire que le défunt a eu une vie exemplaire et qu'il était mort dans un état de perfection spirituelle à tel point que c'est même ça, sa dépouille sentait bon. au XVIIe siècle, il y a des textes pour dire qu'un tel ou un tel est mort en odeur de sainteté. On commence à utiliser l'expression. Aujourd'hui, vous l'avez compris, le sens est un peu moins olfactif, un peu plus imagé. Mmh, être en odeur de sainteté auprès de quelqu'un, ça veut dire tout simplement qu'il vous aime bien, qu'il vous apprécie.
Mmh. Alors, à tel point qu'on dit aujourd'hui, ah oui, ça, celui-là... Je le sens bien, je ne sais pas pourquoi. Celui-là, je ne le sens pas.
Bien joué, exactement, non William. Ça n'a rien à voir pourtant avec l'odeur. Hein. Je connais des sales types qui sentent très bons, je vous assure.
Merci, Sarah. Et tant pis pour les sales types. À tout à l'heure pour une balade culturelle, cette fois-ci avec vous. Mais maintenant, la balade du patrimoine dans un lieu qui mérite, mais qui mérite vraiment votre visite, parce que ce lieu est spectaculaire.
17h, 18h, balade en France sur Europe 1.
Pour la balade du patrimoine, car ça s'appelle comme ça. Direction les Gorges de l'Aveyron, pas loin de Saint-Antonin-Noble-Val. Saint-Antonin-Noble-Val. Vous mettez des petits tirets entre. Vous ne pouvez pas rater le château. Hein. Il est perché tout en haut d'un éperon rocheux et à lui tout seul, il raconte plusieurs siècles d'histoire. C'est le château. On dit alors, ça s'écrit C-A-S et ça se prononce Casse, hein, Gavitz.
Ben je crois bien, on va confirmer tout à l'heure, mais je crois bien que c'est ça. Et pour être précis, on est sur la commune, alors là, d'Espinasse.
Ah oui, là je suis sûr.
Là, je pense que c'est ça aussi. On est à 1h30 de Toulouse, à peu près, dans un territoire très vert, avec des structures en calcaire imposantes, et c'est le cas de ce château.
D'accord, pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Luc Séjourné, qui est régisseur du château de Casse. Bonjour Luc, bonjour monsieur le régisseur.
Oui, bonjour.
Bonjour.
De vous accueillir.
Alors, ce château, il date de quand précisément et qui l'a fréquenté? Il y a eu des gens célèbres dans l'histoire.
Alors oui, il a une assez longue histoire puisque c'est un château qui a à peu près 1000 ans, qui date environ l'an 960. Et d'ailleurs, si on dit Casse, c'est parce que c'était à l'origine, il a été construit à l'emplacement d'un ancien camp romain. Et Castrum, le diminutif de Castrum, c'est Casse, et donc on dit bien château de Casse. C'est-à-dire, vous l'avez très bien dit pour le présenter, parce que les gens qui ne connaissent pas disent souvent quand, y compris quand sur le GPS vous cherchez le château, la dame, la belle voix du GPS dit château de Casse, mais on dit bien Casse. Bon, voilà, donc.
On va appeler la dame du GPS.
Et on parle mieux que la dame du GPS, ça c'est chouette.
C'est peut-être l'occasion de rappeler rapidement les Templiers qui ont habité, qui séjourné là-bas assez longtemps, il me semble, non ?
Voilà, c'était une commanderie en 1312, oui. Puisque le premier propriétaire de Casse, c'était assez courant à l'époque, a fait don au bon Dieu d'une partie de sa fortune. Je pense que il espérait négocier une place au paradis.
Oui, et donc,
ça devait être exactement. Ça. Et donc, ces gens bien nés, fortunés, donnaient toute une partie de leur fortune. Et donc, Frontaro de Casse, c'était le nom de ce riche noble a donné donc à la commanderie, aux Templiers, son château, et le château donc a été une commanderie, donc il a très très bien vécu, il a été beaucoup beaucoup fréquenté, il y avait énormément de passages jusqu'à ce que ça se termine très mal pour les Templiers avec Philippe le Bel.
Oui, justement très 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 rapidement Luc, c'est l'occasion, ces gens-là, les Templiers, qui étaient-ils et pourquoi avaient-ils fait sécession et puis ça s'est mal terminé, vous l'avez dit.
Oui, ça s'est très mal terminé. En fait, ils voulaient récupérer Jérusalem. Et ils estimaient que c'était une guerre sainte. Et puis tous les nobles et tout voulaient s'engager dans l'ordre des Templiers. Et c'était même des héros. Hein. Ils ont échoué à leur mission.
Une sorte d'élite, quoi. Mais ça n'a pas marché avec le roi de France.
Ça s'est très mal terminé parce qu'en fait, ils ont échoué à leur mission. En plus, ils étaient extrêmement riches, ils avaient des châteaux. Pendant ce temps-là, le peuple avait faim.
Oui.
Ça allait très mal. Et le bon peuple français a un petit peu oublié que c'était leur star, ils n'ont pas pleuré la fin des Templiers.
Oui, c'est ça. Voilà. Oui. C'est pas des gens très aimables avec le bon peuple. Allons-y, ça.
C'était une caste, oui, effectivement.
C'est un château assez imposant. À quoi il ressemble? Est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu?
Alors, il est en haut d'un éperon rocheux, c'est-à-dire qu'on le voit d'assez loin. Mmh. C'est assez massif. À l'origine, il était beaucoup plus grand puisque c'était un château fort, qui, avant les Templiers, c'était un château fort qui avait pour mission de défendre les villages qui sont sur le long de la Bonnette, donc Saint-Antonin, Quélus et d'autres villages. Effectivement, on peut voir à plus de 10 ou 15 kilomètres la vallée, les envahisseurs, donc c'était une place forte.
D'accord.
Et ce château a été beaucoup, beaucoup modifié au fil des époques. Il était très, très grand à l'origine, puisqu'il y avait trois tours, il y avait un donjon qui était très haut, il y avait un pont-levis, il y avait des douves et tout. Et puis, il a été modifié au fil des époques. Et puis surtout, ça s'est très mal terminé à la Seconde Guerre mondiale, puisque ça a été une cache d'armes par les résistants qui ont été découverts par la Wehrmacht. Et ils ont été obligés de vite déplacer tout en munitions et tout. Et les Allemands ont brûlé le château.
Ah.
Donc, en 1945, le château n'était plus qu'un champ de ruines.
Alors, avant d'arriver à la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'on peut, en visitant le château, est-ce qu'on peut comprendre quel était un peu l'art de vivre dans ce lieu entre le XIIIe et le XIXe siècle?
Alors justement, ce qui est assez intéressant, c'est que chaque pièce du château raconte une époque différente. Si on commence par les sous-sols, c'est le Moyen-Âge. C'est très pierreux, ce sont des grandes pièces pas très très lumineuses, dont une grande cuisine, qui est, je pense, une des pièces les plus intéressantes du château, qui a déjà été sollicitée pour le cinéma. Vous avez une très grande cheminée, vous avez une grande table, ça communique d'ailleurs sur une sorte de garde-manger qui, en fait, par une trappe, on accède à une grotte qui devait être une issue de secours, où on raconte des tas de choses, qu'on a retrouvé des ossements humains qui avaient plusieurs dizaines de milliers d'années.
Wow.
Il y avait des dessins préhistoriques dans cette grotte. Donc ce site a toujours été habité par les premiers hommes depuis extrêmement longtemps. Et donc le sous-sol est une pièce, est un endroit très intéressant, puisque vous avez des pièces très anciennes,
et donc on passe
très dépouillées.
D'une époque à l'autre, d'un siècle à l'autre, avec des objets, des archives, des tableaux, des armes qui témoignent
Exactement.
De tout ça.
Alors quand on arrive, par exemple, quand on est au rez-de-chaussée, vous avez la salle de justice, qui était une pièce où autrefois le seigneur rendait la justice une fois par semaine, donc ça c'est encore une autre époque. Ensuite on arrive sur une salle à manger avec des collections d'assiettes, des meubles d'époque. Oui, encore une salle à manger qui est très intéressante, qui, elle, date fin 18e siècle.
D'accord.
Donc c'est encore une autre époque. Quand on monte, on arrive dans une chambre Louis XVI, une chambre Louis XIV, une chambre Louis XIII, et toujours avec du mobilier du château de Casse, pour la grande majorité. C'est pas du mobilier qui a été racheté à des antiquaires, c'est du mobilier d'époque, puisque la famille des propriétaires, quand ils ont vu le résultat de M. de Lastic qui avait reconstruit sur ses propres deniers ce château, quand ils ont vu la qualité du résultat, ils ont restitué progressivement tous les meubles.
Parlez-nous de la famille Gavins qui a acheté ce château, ça vous intéressait ça?
Oui, moi je voulais savoir à qui il appartient aujourd'hui ce château.
Cette famille appartient à la famille de Lastic Saint-Jean. C'est une vieille famille française qui, à l'origine, habitait beaucoup la région. Mais vous savez, c'est comme toutes les familles. Maintenant, les gens habitent plutôt les grandes villes. C'est là où il y a du travail et tout. Donc, une grande partie habite surtout Paris, Versailles. La famille vient quelques fois dans l'année. Je dis bien quelques fois, ça va être quelques semaines lors des vacances.
Et c'est vous qui gérez tout pendant ce temps-là.
Voilà, c'est-à-dire que je m'occupe des visites d'été, des gîtes, pardon.
Mais ils habitent où? Ils habitent dans la chambre Louis XVI, ils vont à la cuisine Louis XIII, etc.
Alors exactement, quand la famille vient l'été, ils essayent quand même que le château, on puisse continuer à le visiter.
Ah.
Donc, ils s'arrangent pour essayer que les pièces qu'ils habitent soient le mieux rangées possible, que les lits soient faits.
Attendez, on peut croiser Monsieur le Comte en pyjama quand on visite, alors?
Alors non, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine tenue, même s'il a un sens de l'humour. C'est quelqu'un qui a un humour qui est assez pince sans rire, qui est très calme.
Déjà,
qui est
beaucoup
calme.
bien, il nous plaît bien, monsieur le comte, alors ça va.
Ah oui, bah, c'est quelqu'un que tout le monde aime, et c'est son fils, en fait, qui a repris les clés du château. Je peux dire qu'il a eu quand même un héritage un petit peu empoisonné de
bah, ça coûte cher château. À entretenir, faut
ça
bien
coûte
dire.
Très
hein,
cher. Ce château n'a aucune aide de l'État. Alors les gens sont souvent étonnés que les places soient un petit peu chères, les entrées.
Bah, je vais dire aux gens, allez-y les gens, allez-y, c'est bien.
Parce qu'il faut aider Monsieur le Comte.
En plus, je vois la piscine qui m'a l'air d'une bonne taille. Le paysage est magnifique et puis vous restez là.
Bah, ce sont des gîtes hein, l'été. Vous avez des gîtes, vous avez quand même presque 35 lits répartis. Alors,
formidable.
C'est grâce à toutes ces activités que le château essaye d'être
grâce à vous,
je comprends.
Et grâce à vous, Luc.
Bon, écoutez, vous transmettrez nos vœux respectueux pour cette année à Monsieur le Comte et Madame.
Ah bah écoutez, je pense qu'il doit vous entendre. Il va être très touché. Voilà,
c'est le château de Casse à Espinasse, au cœur des gorges de l'Aveyron. Ça mérite votre visite, auditeurs et auditrices d'Europe 1. C'est ce qu'on appelle un exemple du patrimoine vivant. Qui est toujours très à l'aise dans son paysage d'origine, et vous serez à 1h30 environ, j'ai dit, de Toulouse. Merci, monsieur. Merci, monsieur le régisseur.
Merci,
Luc. Merci, et je vous accueille à partir du 1er mai.
J'ai noté la date. Au revoir, bonne journée.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt, d'autres infos, Gavin.
Eh bien oui, prenez vos places, ça commence le 1er mai, on a entendu pour la visite, jusqu'au 1er octobre, c'est recommandé de téléphoner avant de se déplacer, bien sûr. La visite guidée commence à 15h30, c'est précis, sauf le lundi, et lors des privatisations, il faut compter 15 euros, ça va, ça reste correct hein, pour faire un cours d'histoire.
Et qu'est-ce que vous faites pour les vacances? Bon, on va au château de
papa.
On va
au château. C'est gratuit pour les tout-petits, toutes les informations sont bien sûr à retrouver sur le site europe1.fr.
Europe 1, 17h-18h.
La culture, toutes les cultures sont dans Balade en France.
Direction Nice maintenant pour la balade culturelle, effectivement, et plus précisément le musée des arts asiatiques qui présente en ce moment une exposition rare sur un art martial qui nous a, nous occidentaux, européens, toujours étonnés. C'est le sumo, S majuscule, S-U-M-O. C'est un véritable rituel national là-bas au Japon, ça.
Ah oui, William. Et pour bien le comprendre, vous allez découvrir dans ce musée une exposition riche. Pourquoi ? Parce que historique, qui s'intitule « Sumo ». L'équilibre absolu.
On dit sumo
J'ai l'impression. Moi, j'aime bien le dire comme ça.
Non, c'est pas en Amérique du Sud, sumo. C'est au Japon.
Ah oui, sinon j'aurais des sumo.
Oui, c'est mieux, oui. Parce que, alors, c'est un rituel, on est bien d'accord, que respecte l'ensemble de la population. C'est pas, il y a quelques adhérents. Non,
carrément.
Il n'y a pas d'équivalent dans
non,
notre
c'est
pays.
Tout. C'est tout ça. C'est la population japonaise complètement dans son ensemble respecte, adore ce symbole, ce sport. C'est un miroir. Pourquoi ? Parce que c'est un miroir de la société japonaise avec. Bah, tous ces codes, ces symboles, sa beauté aussi. Alors évidemment, chez les Occidentaux, ça peut surprendre quand on voit ces hommes hein, qui ont un volume impressionnant, doués d'une souplesse incroyable et d'une agilité
folle. Et d'une force aussi.
Bien sûr.
Alors, dans le musée, qu'est-ce qu'on voit ?
Dans le musée, on voit des objets, des armures, des vidéos, pour bien comprendre, en fait, qu'est-ce que cette culture, est-ce qu'elle représente, hein, c'est une culture spectaculaire, mais vous allez voir aussi sur place qu'il s'agit d'une muséographie qui est très, très... Ah, je sais que Gavin s'adore ça, immersive.
Ah.
Et vous allez comprendre comment.
On va voir à quoi ça correspond dans ce musée-là, une muséographie immersive. Eh bien, justement, pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Adrien Bossard, qui est le commissaire de l'exposition. Monsieur le commissaire, bonjour. Bonjour, Adrien.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, avant toute chose, il faut nous expliquer ce que ce sport représente dans la culture japonaise. On en a dit un mot, là. C'est-à-dire, un mot sur l'histoire, l'origine, et ensuite, vous me direz, s'il vous plaît, comment vous avez mis en lumière tout cet univers-là. Autrement dit, comment vous l'avez organisé, quoi.
Ouais, tout un programme donc. Le sumo, c'est le sport national du Japon,
oui.
Dont les origines remontent aux temps les plus anciens. On a des origines mythologiques, on a des origines historiques qui vont remonter au 8e, 10e, 12e, c'est pas très clair parce que les textes sont pas tous exhaustifs sur le sujet.
Oui.
Et en tout cas, le sumo d'aujourd'hui se structure à partir du 17e siècle. Et on va avoir cette périodicité de tournois, avec plusieurs tournois dans différentes villes chaque année.
D'accord.
Et c'est vraiment un événement chaque année. C'est toujours la même chose, mais c'est il y a des petites variations quand même parce que c'est pas toujours le même qui gagne, c'est pas toujours le même qui perd.
D'accord.
Et cette idée de faire une exposition à Nice, d'ailleurs c'est la première sur le sujet en France. J'étais le premier étonné.
Oui. Oui. Oui.
C'est une rencontre avec Philippe Marini, qui est un photographe français. Qui, il y a 20 ans, est rentré dans le monde du sumo. Donc c'est un des rares occidentaux à pouvoir accéder aux lutteurs. Mais en plus, il accède aux coulisses, il peut voir les entraînements, il connaît personnellement des lutteurs qu'il a rencontrés il y a longtemps, qui étaient jeunes, qui sont devenus des grands champions. Et grâce à lui, on a pu rentrer dans cet univers et avoir l'autorisation de faire cette exposition. D'accord. Puisqu'il faut le sésame de l'association toute puissante de sumo au Japon.
Encore une petite précision, Adrien, parce qu'il y a peut-être parmi nos auditeurs des gens qui n'ont jamais vu un tournoi de sumo. Il faut expliquer que donc ces hommes-là pèsent plusieurs dizaines de kilos et ils jouent dans un cercle. Expliquez-nous l'objectif de cette lutte-là à main nue.
Oui, alors c'est une lutte très particulière. Déjà, l'objectif, c'est de faire toucher à son adversaire le sol avec une autre partie que ses pieds ou le faire sortir du cercle, qui est un cercle sacré.
Sacré.
Et ce sport a pour particularité de ne pas avoir de catégorie de poids. Donc quelqu'un qui fait 100 kilos peut se retrouver face à quelqu'un qui fait 160 kilos, mais grâce aux 88 prises officielles du sumo qui sont autorisées, il peut quand même s'en sortir avec de la technique.
Ah, car il y a des prises qui sont interdites.
Tout à fait. Mais il y a des prises quand même assez étonnantes. Hein. On peut gifler son adversaire quand il s'élance vers vous pour le décompenser.
Moi, alors, personnellement, ça vous est complètement égal, Adrien, mais prendre une baffe d'un sumo, moi, j'ai pas très, très, très envie.
Non, mais eux, ils s'en remettent bien.
Le cercle, il fait combien de diamètre?
Là, vous me posez une colle.
On va regarder.
C'est un large cercle.
Oui,
il a pour particularité d'être fait avec une corde sacrée. Oui. Et ce cercle s'intègre lui-même dans un carré. Et le cercle et le carré, c'est une représentation schématique de l'univers. Donc, quand ils font leur combat, ils sont au centre de l'univers.
D'accord. Sarah ?
Oui, alors ils ont aussi un chignon, hein, pardon, c'est une question peut-être un peu... Oui, un petit chignon. Est-ce que c'est le même, non, que les samouraïs ?
Tout à fait. Oui, ça s'appelle Chonmage. Ça fait partie de leurs atours officiels parce qu'ils sont même obligés de se balader en kimono quand ils se rendent au stade depuis leur écurie. Ils prennent le métro en kimono traditionnel parce qu'ils représentent aussi le Japon ancien et donc ils ont cette obligation. Et effectivement, le Chonmage, ce chignon très particulier.
Ouais. Parce que les cheveux doivent être huilés. Noué sur le sommet du crâne, c'est quoi? C'est pour que l'autre sumo ne puisse pas l'attraper par les cheveux? C'est quoi?
Peut-être.
Notamment, oui, mais c'est aussi pour ça qu'il porte juste une ceinture. C'est l'essence même de ce combat qui est la lutte japonaise. C'est montrer qu'on ne cache rien, on n'a pas d'armes, on n'a pas fioritures dans ce combat. Mais quoi.
Alors, vous voulez la taille du cercle de combat, c'est 4,55.
Quoi?
Mètre.
4,55 mètres, c'est donc pas si grand que ça.
Et tout est très codifié et c'est interdit aux femmes aussi, il faut le rappeler. Hein. C'est un cercle sacré qui est uniquement consacré aux hommes.
Ok, Sarah, d'autres questions à vous poser?
Les grands champions de sumo sont des véritables superstars, non?
Ouais, c'est des stars de cinéma.
C'est ça.
Ils sont suivis par des fans, leurs moindres gestes sont suivis par la presse.
Ah,
et d'ailleurs, ils doivent faire très attention à ce qu'ils font parce que, en fait, il y a l'aspect sportif dans le sumo, mais aussi l'aspect moral. Et en fait, ils représentent la moralité japonaise.
Donc les photos floues dans la presse people sur un paddle, c'est pas possible.
Il y en a eu. Et ça crée des scandales parce que, au même titre que des hommes politiques, des stars de cinéma, les sumo au Japon, sont sous les feux des projecteurs.
Et est-ce qu'ils gagnent beaucoup d'argent?
Oui, bonne question.
On gagne bien sa vie quand on est un lutteur de sumo, effectivement, mais quand on est vraiment au top. Il n'y a pas que des sumo professionnels, parce qu'il y a aussi un sport amateur, et d'ailleurs les femmes peuvent pratiquer le sport en amateur, il n'existe pas de catégorie professionnelle, mais bon.
Mais c'est pas le sujet.
Non, mais on est d'accord que s'il traverse la rue à Tokyo, on sait que c'est un sumo, et pour cause. Il n'y a pas de doute.
Oui,
là-dessus.
Oui, on, oui. On,
même en costard,
on a du mal à
William.
Rater.
Non, mais c'est pour savoir, parce que c'est pas, on n'a pas l'équivalent en Europe de ce genre de sport. Le jockey, il se balade pas avec des bottes et une petite cravache avec sa casquette pour qu'on voit.
Mais on a les footballeurs chez nous.
Ils sont vraiment au-delà du concept de fan.
Comment vous avez mis tout ça en lumière, tout cet univers des sons? Comment vous l'avez organisé, votre exposition là?
Bah alors, on est parti d'un dialogue entre donc les photographies de Philippe Marigny,
oui,
qui sont vraiment exceptionnelles et qu'on voit rarement, et des estampes réalisées par un ami à lui, qui est le portraitiste officiel des lutteurs, donc qui fait de manière traditionnelle ces estampes. Donc, elles sont assez connues. Et puis, j'ai enrichi le propos avec des œuvres anciennes qui permettent de retracer l'histoire à l'époque d'Edo, c'est-à-dire du 17e jusqu'au 19e. Et on a bénéficié de prêts de musées prestigieux, notamment le musée du Quai Branly, les musées de Reims aussi ont participé au projet.
Bon.
Et le petit clin d'œil aussi, cocorico aux Français, c'est la passion de Jacques Chirac pour le sumo.
Oui, évidemment.
Et, oui.
Et pardon, j'ai une dernière question.
Dernière.
Pourquoi ça s'appelle sumo l'équilibre absolu? Pourquoi l'équilibre?
Alors c'est une bonne question, parce que les fans de sumo, les connaisseurs, seraient pas d'accord avec le titre. Mais en fait, c'est lié à une discussion avec le photographe qui m'a expliqué qu'il avait l'impression qu'en deux lutteurs rentrent en contact, il a l'impression qu'il y a une espèce de moment d'équilibre absolu qu'il essaye de capter.
Mmh.
Et c'est ça qu'on a voulu mettre en valeur en choisissant ce sous-titre.
D'accord, très bien. Il y a une explication au mot sumo, S-U-M-O, ça veut dire quelque chose ou pas spécialement?
Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a tendance à les appeler les sumos, mais en fait, en japonais, on les appelle pas des sumos. On les appelle des rikishi, ces lutteurs de sumo. Le sumo, c'est le nom du sport.
Ah,
mais en français, on a cette tendance à les appeler sumo et sumotori. Et en japonais, les sumotori, ce sont les jeunes lutteurs.
D'accord. Rikishi. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire lutteur de
sumo.
Lutteur de sumo.
Voilà. Est-ce qu'il y a une œuvre, pour terminer, là, une petite pièce dans l'exposition que vous nous recommandez quand on va aller chez vous à Nice?
Dans l'exposition, oui, il y a une pièce assez phénoménale qui est la seule œuvre en trois dimensions faite par Pierre Soulages, le peintre de Montre Noire. Parce que, à la demande de Jacques Chirac, Pierre Soulages a fait un trophée de tournoi de sumo.
Oh, dis-donc.
Et il n'y en a que 10 au monde, et on a la chance d'en avoir un au milieu de l'exposition. Et c'est juste sublime, et il faut absolument venir voir cette œuvre.
Eh ben, j'allais le dire, mais vous êtes chargé de ça, donc il faut absolument. Merci, monsieur le commissaire, merci, Adrien.
Merci.
Ça se passe au Musée des Arts Asiatiques de Nice. Bonne journée à vous, au revoir.
Merci.
Au revoir.
Bonne journée.
Voici maintenant d'autres informations pratiques avec vous, Sarah, donc.
Bien sûr, l'exposition Sumo, l'équilibre absolu est à voir au Musée départemental des arts asiatiques de Nice et se déroule jusqu'au 1er février 2026. Toutes les infos,
c'est dans pas longtemps.
C'est dans pas longtemps. Toutes les infos sur notre site europe1.fr, bien sûr. Et si
quoi,
je peux faire mon Gavins, je vous recommande en même temps d'aller goûter les petits farcis de la cantine de qui? Bah de Jo, qui est le restaurant de qui? De moi-même, Muriel Robin, et de mon épouse Anne Lenaine. Ça s'appelle La Cantine de Jo, c'est au 5 rue Alexandre-Marie à Nice.
Pas mal, oui, non, bien, bien. Merci, Sarah.
Allez, bisous.
Allez, bisous à vous, bisous à Muriel également, et à Anne.
Et à Anne.
Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés, madame, monsieur. Merci à Gavitz, Clémenté Ruiz, à Sarah Doraghi pour les balades du jour que vous avez entendues attentivement. Merci également à Maryse Jacquet pour la production, à Christophe Pierrot pour la réalisation et à Sarah Burle pour son efficacité à retranscrire tout ce que nous avons dit. Si vous avez manqué le début d'émission, vous n'avez qu'à écouter le podcast de l'émission et de toutes les précédentes si vous le souhaitez aussi, parce que tout cela est sur le site internet et l'application d'Europe 1, ou alors si vous voulez sur les plateformes dédiées. Voilà, je vous souhaite, et mes camarades aussi, un bon week-end, une bonne semaine, et on se retrouve avec plaisir samedi prochain, c'est à 17h sur Europe 1, Stabat Soir.
Balade en France, 17h-18h.
William Lémergie. C'était Balade en France avec William Lémergie, que vous retrouverez samedi prochain de 17h à 18h sur Europe 1. Et dans un instant, c'est Clap, l'émission qui raconte le cinéma avec Laurie Choleva, ses chroniqueurs et son invité. Ce samedi, c'était le réalisateur Olivier Assayas pour son film Le Mage du Kremlin, qui sort en salle mercredi avec Jude Law dans le rôle de Vladimir Poutine. Mais pour le moment, la musique. Avec un hit des années 90, Vanessa Carlton, voici A Thousand Miles sur Europa.
Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me? I miss you. Now I want.